Nous arrivons maintenant à un autre aspect de l'adoration par la prédication de la parole de Dieu. Donc tenez-vous bien assis, parce que je veux m'entretenir avec vous quelque chose qu'on n'aime pas trop entendre. Quelque chose qu'on dirait désuet, galvaudé, a priori pas beaucoup d'utilité. De quoi je vais parler? De la doctrine. Plus précisément de la doctrine des apôtres. Je dis, on n'aime pas trop entendre, parce que vous savez, la perception du monde, quand on entend le mot doctrine, c'est quelque chose de dépassé. Et notre société n'est pas réceptive à une doctrine. Pourquoi ? N'oublions pas que nous sommes dans le pays de Descartes. La doctrine est en opposition à la liberté de penser. Je pense ce que je veux, et donc c'est le refus de toute autorité et de toute vérité. Et nous sommes dans une société où on ne croit plus en rien, parce qu'on fait ce que l'on veut. Et pourquoi on est réticent d'entendre ce mot? Parce que entendre le mot doctrine nous fait penser à l'endoctrinement. Et ça fait très peur. Parce que derrière, sous-entendu, il y a la notion de manipulation. Ça, c'est la perception du monde. Mais comment les chrétiens voient aussi? Certains diraient, comment allons-nous convertir le monde si on les enfonce avec la doctrine? Donc il ne faut pas être trop sérieux. Il faut diluer notre doctrine. Il ne faut pas trop prendre les choses dans le sens littéral, mais l'adapter avec la philosophie, les mentalités de ce monde, si nous voulons qu'ils se convertissent à Jésus-Christ. Et je dirais, d'autres peuvent considérer la doctrine comme étant abstraite, qui n'a pas d'utilité dans la vie de tous les jours. Alors, je parle en tant que chrétien, on peut sous-estimer l'importance de la doctrine de la parole de Dieu, non seulement dans notre vie personnelle, mais ça peut arriver même dans la vie de l'Église. Donc pourquoi ce mot est tellement, je ne dis pas détesté, tellement on n'a pas envie d'entendre? Cela nécessite qu'on revienne au sens de ce mot. Et donc ce matin, je veux parler donc de trois points au sujet de la doctrine qui, j'ai dit, fait peur. D'abord, le sens biblique du mot, l'étymologie de ce mot, et le sens dans le contexte de la Bible. Et nous allons regarder tout spécialement la doctrine des apôtres. Et nous allons regarder, deuxième point, l'importance de la doctrine des apôtres. Et la nécessité, troisième point, de persévérer dans la doctrine des apôtres. Donc sans tarder, qu'est-ce que signifie le mot « doctrine » ? Doctrine, retenez bien, c'est le mot aussi enseignement, et qui vient du grec didache ou didaskalia. Ce qu'il faut retenir quand on parle de doctrine, il y a deux choses. Si vous retenez ça, c'est déjà très bien. C'est que quand on parle de doctrine, ça parle de l'acte d'enseignement, l'acte d'enseigner. Mais ça parle aussi du contenu de l'enseignement ou la doctrine enseignée. Deux choses, quand on entend doctrine, l'acte de le transmettre, l'enseignement, et le contenu de ce qu'on enseigne, la doctrine enseignée. Juste pour illustrer des passages bibliques parmi tant d'autres, on n'a pas le temps de s'attarder là-dessus, juste un passage, 1 Timothée, chapitre 4, verset 13. jusqu'à ce que je vienne, c'est Paul qui parle, applique-toi, il s'adresse à Timothée à la lecture, c'est une activité, il l'incite à quelques activités, à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement, didascalia, c'est notre sujet. Ici, qu'est-ce qui se passe? Paul a été retardé en Macédoine, mais il a promis d'aller joindre Timothée, et en attendant, il dit, applique-toi du sérieux à l'enseignement. Alors, qu'est-ce qui est souligné ici par rapport à nos deux définitions? Ce qui est souligné ici, c'est l'acte d'enseignement. C'est clair. D'accord? Dans cet exemple-là. Prenons un autre exemple maintenant, Matthieu 15, verset 9. C'est en vain, Jésus qui parle, qu'il m'honore en enseignant des préceptes. On est un peu surpris de la traduction, mais le mot précepte, c'est didascalia. C'est le même mot qui est traduit enseignement dans 1 Timothée 4:13. Qui sont des commandements d'homme. Quel est le contexte ici? Ce que Jésus souligne ici, c'est le contenu de la doctrine enseignée par les pharisiens, dont la source se trouve dans l'homme, plus précisément dans la tradition des hommes. Vous lisez ce passage, juste quelques versets auparavant, il va répéter à deux reprises le mot « tradition ». Donc ici, ce qui est souligné, non plus l'acte d'enseigner, mais c'est le contenu de l'enseignement de ces pharisiens, hein, qui est à la base la tradition des hommes. Vous voyez? Quelqu'un définit la doctrine, hein, je dirais la sainte doctrine ainsi. C'est un théologien et j'aime bien ce qu'il dit. La sainte doctrine est un résumé de l'enseignement biblique qui est à la fois fidèle à la Bible et utile pour notre vie. On vient de dire tout à l'heure à l'introduction, doctrine c'est trop abstrait. Qu'est-ce que ça va faire avec ma vie personnelle? C'est ce que nous tâchons de faire et de montrer par la suite. Donc l'enseignement biblique fidèle à la Bible et utile pour notre vie, ça c'est une bonne doctrine. Et deux choses qu'il faut toujours ne pas retenir, cette personne dit la sainte doctrine comporte deux aspects, elle est biblique et elle est pratique. Elle est biblique et elle est pratique. Alors la question maintenant, comme nous sommes en train de regarder la doctrine des apôtres, quel est le contenu de la doctrine des apôtres ? Juste quelques passages, rappelez-vous, lorsque Jésus est ressuscité, il donna aux apôtres une grande commission d'aller vers les nations et il leur dit, enseignez-leur, didasco, à observer tout ce que je vous ai prescrit, oralement. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et il ne faut pas oublier non plus que le Seigneur, avant d'aller au ciel, a promis à ses disciples, le Consolateur, Jean 14, 26, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, on va y revenir, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit, vous pouvez rajouter oralement. Et Jésus dit encore dans ce cadre, sera venu l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité et il vous annoncera les choses à venir. Quel est le contenu de la doctrine des apôtres? Donc, la doctrine des apôtres comprend tout ce que Jésus a dit. C'est les quatre évangiles. Ici, dans les quatre évangiles, nous avons ce que le Seigneur a enseigné et que l'Esprit Saint a rappelé aux apôtres, ce que je vous ai dit, et donc l'Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, c'est les quatre évangiles. Mais quand Jésus dit, le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Hein? Et aussi, il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que le Saint-Esprit va leur enseigner des choses nouvelles que Jésus ne leur avait pas communiquées pendant son ministère terrestre, hein, oralement. Donc, au fur et à mesure que l'œuvre grandissait, il y avait des nouveaux besoins variés et le Saint-Esprit va révéler aux apôtres les vérités pour combler ces besoins. C'est pour ça qu'on parle de la révélation progressive. Et donc, dans les épîtres, nous avons toute chose. Et nous avons toute la vérité enseignée par l'Esprit de vérité. Donc, toute chose, toute la vérité, ça donc correspond aux épîtres. Et Jésus dit aussi, et il vous annoncera les choses à venir. C'est dans Apocalypse que nous avons les choses à venir. Il vous annoncera donc les choses à venir, et cela c'est enseigné par l'Esprit de vérité. Donc, ce que les apôtres ont enseigné oralement, maintenant nous l'avons écrit dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, ici, en partie. Et donc, nous avons entre nos mains la doctrine apostolique complète dans le Nouveau Testament qui forme un tout. Il n'y a plus d'autres révélations. On a tout ce dont nous avons besoin, l'enseignement de Jésus-Christ dans tout le Nouveau Testament. La question maintenant, pourquoi la doctrine est-elle si importante? Retenez bien donc, dans le Nouveau Testament, nous avons la doctrine des apôtres complète. Donc l'importance de la doctrine des apôtres, pourquoi? Qu'est-ce qui donne de l'importance à la doctrine des apôtres? C'est tout simplement parce que la doctrine des apôtres est reliée au centre par la personne de Jésus-Christ. Je vais le reformuler. Elle est si importante, la doctrine des apôtres, parce que au centre de la doctrine est la personne de Jésus-Christ. 2 Jean, verset 9, nous lisons « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. » C'est ça que je vise dans ce verset. « N'a point Dieu, et celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » Dans Actes 13, 12, « Alors le proconsul, voyant ce qui est arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. » Vous voyez bien, la doctrine de Christ, ça veut dire, c'est l'enseignement qui confesse que le Jésus-Christ est le Christ, le Messie. Donc vous voyez, intimement lié la doctrine, l'enseignement avec Jésus-Christ. Donc la bonne doctrine a au centre la personne et l'enseignement de Jésus-Christ. Ici, dans Actes 13, 2, juste le contexte, il y a un proconsul, c'était un gouverneur à l'époque, qui dirigeait les provinces de l'Empire romain. Et ce qui est intéressant, ce monsieur Sergius Paulus avait manifesté le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais, chaque fois, vous voyez, l'opposition est là. Un magicien, Elimas, s'opposant et veut détourner Sergius Paulus pour ne pas entendre la doctrine de la foi chrétienne. Et Paul fixa le regard sur lui et lui annonce qu'il sera aveugle. Et c'est ce qui est arrivé. Et voyant cela, ce qui est arrivé, le proconsul, nous lisons dans Actes, donc, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Qu'est-ce que je veux souligner dans ces deux versets, 2 Jean 9 et Actes 13, 12? Ce qui est important à souligner dans les deux passages, c'est que l'autorité de la doctrine des apôtres vient de Christ. Donc, ce qui constitue la doctrine est non seulement le contenu de l'enseignement présenté aux croyants, mais surtout la relation évidente qui existe entre ce contenu, cet enseignement ou doctrine, et Jésus-Christ. Vous voyez ? Donc la doctrine des apôtres est intimement liée à l'enseignement de Jésus et Jésus est au centre de la doctrine des apôtres. Pourquoi c'est important de considérer ce fait? Parce que quand vous regardez l'histoire de la chrétienté, il est vu apparaître dès que Jésus-Christ n'est plus au centre de la doctrine, mais autre chose prenne de l'autorité à la place de Jésus-Christ, on a vu apparaître l'autorité de la tradition. On a vu apparaître la raison qui surpasse l'autorité de la Bible, le rationalisme. On a vu apparaître les autorités ecclésiastiques qui se placent au-dessus de l'autorité de doctrine des apôtres, parce que Jésus-Christ n'est plus au centre, c'est la papauté, par exemple. Donc vous voyez, c'est important de souligner ces faits. Ça, c'est très important. Deuxième chose, qu'est-ce qui fait que la doctrine des apôtres est si importante? Deuxième point, ce qui fait et donne de l'importance à la doctrine des apôtres, c'est qu'elle doit être et elle est intimement liée aux Écritures. Donc vous voyez, doctrine inséparable de Jésus-Christ et de son enseignement, doctrine des apôtres inséparable des Écritures. C'est ce que nous... Merci. C'est ce que nous voyons ici dans Luc 24, 27. Je vais prendre l'exemple de Jésus pour vous signifier comment ces passages nous enseignent le lien intime entre la doctrine et les Écritures. Ici, donc, Luc 24, 27, commençons par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ici, Luc réfère aux Écritures comme étant les écrits de l'Ancien Testament. Moïse, c'est de Genèse à Deutéronome, et les prophètes, et il y a tout le reste, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il fait? Et donc, il va se servir, Jésus va se servir de ces écrits, l'Écriture pour démontrer qu'il est le sujet central de l'enseignement de l'Ancien Testament. Vous voyez, dans toutes les Écritures, ce qui le Jésus concernait. Il est le sujet central des Écritures. Regardons Philippe. Philippe dans Actes 8, 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe ici, il y avait un Éthiopien très haut placé qui s'occupe des trésors de la reine d'Éthiopie. Il est de retour de pèlerinage de Jérusalem. Et dans son char, il lit le prophète Ésaïe. Et en lisant le prophète Ésaïe, il est tombé sur le verset dans Ésaïe 53, versets 7 et 8. Il a été comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Il ne comprend pas. Et Dieu, l'ange du Seigneur, a envoyé Philippe pour aller faire une étude biblique en privé avec cet homme. Et ce qui est intéressant ici, la démarche de Philippe en commençant par ce passage, les Écritures. On parle d'Ésaïe, n'est-ce pas? Il va démontrer que Jésus-Christ, l'Évangile, la bonne nouvelle, le Messie. Donc ici, il enseigne tout simplement le lien direct de ce qu'il enseigne avec Jésus-Christ en se basant sur les Écritures. Vous voyez, c'est lié. Troisième exemple, celui de Paul. Il est dit dans Actes 17, 2 et 3, d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts, et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Ici, Paul démontre de façon convaincante à partir de l'Ancien Testament, les Écritures, que le Messie doit souffrir. Et plus que cela, il va démontrer à partir des Écritures que le Messie tant attendu des Juifs, c'est lui, le Christ. Donc il tend à les démontrer à partir des Écritures. Je peux encore parler d'Apollos. Je peux vous faire référence à ce lien intime entre la doctrine, la bonne doctrine et les Écritures. Est-ce que vous vous rappelez du discours de Pierre, un long discours en Actes chapitre 2? Est-ce que vous vous rappelez du discours d'Étienne avant sa lapidation? Plus de la moitié de ces discours sont tous des citations de l'Ancien Testament, des Écritures. Vous voyez? C'est très important. Donc ces trois exemples nous enseignent que la doctrine est intimement liée aux Écritures. Et donc doit être basé sur les Écritures. Nous venons de voir ici dans l'exemple Jésus, Philippe, Paul, qui font référence aux Écritures, et quand on entend cela ici, on fait référence à l'Ancien Testament. La question que nous pouvons nous poser maintenant, c'est que est-ce que le Nouveau Testament fait-il partie de l'Écriture? Ça, c'est la question qui se pose maintenant. Est-ce que le Nouveau Testament fait-il partie de l'Écriture? Regardez 1 Timothée 5,18. Car l'Écriture dit, c'est Paul qui parle, « Tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain. » Et l'ouvrier mérite son salaire. J'aimerais que vous le vérifiez dans votre Bible, que Paul, ici, dans l'Écriture, il fait allusion à la fois à l'Ancien Testament, parce que « Tu n'emmuselleras point le bœuf qui foule dans le grain », c'est Deutéronome 5,18. C'est Moïse. Et l'ouvrier mérite son salaire, c'est le Nouveau Testament, c'est la parole de Jésus en Luc 10, verset 7. Qu'est-ce qu'il faut retenir ici? L'apôtre Paul considère les deux citations, Deutéronome et Luc, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, faisant partie de l'Écriture. Vous voyez? De Pierre 3, verset 16, c'est ce qu'il fait, en parlant il, Paul, dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Donc ici, ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qu'il parle? C'est l'apôtre Pierre qui place tous les écrits de l'apôtre Paul au même niveau que les autres Écritures. Donc vous voyez, c'est une démonstration que le Nouveau Testament fait partie de l'Écriture. Donc nous avons dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament ici qui englobe les Écritures où s'est basée donc la doctrine des apôtres. En parlant de l'Écriture, on ne peut pas passer à côté de 2 Timothée 3,16, verset 17. Maintenant c'est clair pour nous. Donc, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, écriture, c'est quoi, d'après ce que nous venons de voir? Ça inclut l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il est en train de dire que l'écriture est utile. Il est utile pour diverses raisons. D'abord, il est utile pour enseigner. Enseigner, c'est communiquer à l'homme la pensée de Dieu. Il est utile pour convaincre. Convaincre dans le sens de convaincre d'une faute. C'est-à-dire de mettre à nu le péché, d'exposer le péché, d'exposer les hérésies, exposer les conduites qui ne sont pas selon la parole. Ça, c'est l'idée de convaincre. Mais convaincre a besoin d'être rajouté aussi par corriger. Parce que convaincre, c'est exposer la faute. Mais ça ne suffit pas. Il faut corriger la faute. D'où corriger, c'est la parole qui redresse, qui corrige ce qui était faux. Et instruire dans la justice, ici c'est le mot employé pour la formation des enfants. Hein, donc, l'instruction correspond donc l'instruction en elle-même, mais aussi la discipline, Colossiens 1.28, Tite 2-11. Et ce qui est important à retenir, l'utilité de l'écriture, c'est dans quel but? Non pas pour produire un résultat théorique, mais pour produire quelque chose de très pratique. Donc vous voyez, ça démolit toute la priori que nous avons dit, une doctrine c'est abstraite, n'a rien à voir avec ma vie. Ce passage nous l'enseigne très bien. Pourquoi? Parce qu'il est dit que tout cela, c'est pour que l'homme soit propre à toute bonne œuvre. Donc, ce qu'il faut retenir ici, l'écriture est utile pour modeler nos pensées, à enseigner la vérité, réfuter l'erreur. L'écriture est utile pour modeler nos actions, redresser ce qui ne va pas, pour amener sur le droit chemin. Donc la doctrine basée sur l'écriture n'est pas pour satisfaire, je dirais, la curiosité humaine ou augmenter la connaissance, n'empêche qu'on a besoin de connaissances théologiques, mais avant tout pour répondre à un besoin plus pressant, plus urgent, c'est le besoin de celui de la vie, celui de la vie. Donc je dirais en un mot, le véritable but de l'enseignement des doctrines n'est pas savoir, mais vivre. L'importance Et je dirais la nécessité de l'enseignement des doctrines n'est pas d'abord savoir, mais surtout vivre. Et donc, ça touche alors notre vie. Alors, nous ne devons pas sous-estimer l'enseignement donc, de la bonne doctrine basée sur les Écritures, parce qu'elle a un impact direct sur notre vie personnelle. Et elle a un impact dans la vie de tous les jours. Comment ça peut se faire? Quand vous étudiez la doctrine de la parole de Dieu, elle va mettre en lumière tous les aspects de notre vie. Et elle va corriger les mauvaises conceptions des choses et donner la lumière selon Dieu sur le bon enseignement, sur ces aspects, comment doit-on le considérer? Donc, l'étude des doctrines doit toucher tous les aspects de notre vie spirituelle, matérielle, sexuelle, émotionnelle, relationnelle, même l'éthique, parce qu'on parle de pratique. Et en matière d'éducation, et la liste est longue, vous voyez, pour que tout cela soit placé dans la lumière de la parole de Dieu, qui devrait être la norme et non pas celle qui est dictée par les hommes. Ça, c'est très important. Et je tiens à vous préciser que ce n'est pas vos parents, même vous les jeunes, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas la famille, ce n'est pas par les livres chrétiens, ce n'est pas par les visions que votre vie va être transformée. Elle va être transformée sur la doctrine basée sur les Écritures, d'où l'importance de la doctrine. Troisième point, en quoi la doctrine des apôtres est importante? C'est que la doctrine est intimement liée à la conduite. Regardez Tite 2, verset 1, et j'aimerais que vous regardiez votre Bible ouverte devant vous. Donc, il y a une relation entre la doctrine et la conduite. Donc, vous voyez, c'est très pratique. Cette conception, a priori, n'a pas de fondement. La Bible est claire. Il dit à Timothée ici, « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Qu'est-ce que Paul est en train de faire? Dans cet épître, Paul exhorte Tite à lutter contre les hérésies, les fausses doctrines en Crète. Et il lui demande, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Ça veut dire, qui est la norme? La norme, c'est la sainte doctrine et doit être en conformité. La question qui se pose, ouvrez votre Bible. Alors, quand il dit, dis ces choses, mais de quelle chose? De quelle chose vous lisez? De verset 2 jusqu'à verset 10. Qu'est-ce que vous lisez? Je lis juste verset 2. « Dit que les veillards doivent être sobres, doivent être honnêtes, doivent être modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. » Verset 3. « Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, ni être médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. » On peut continuer. Ici, quelles sont ces choses? Ces choses sont des comportements éthiques. C'est la vie pratique, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas de la théorie, c'est une liste de comportements éthiques à adopter. Et ce qui me frappe, dans Tite chapitre 2, versets 2 à 10, tout le monde est concerné dans l'Église. Les personnes âgées, les jeunes gens, et même dans le cadre professionnel, les serviteurs, et quels que soient les sexes. Donc, vous voyez, la doctrine a un impact direct sur notre conduite. Juste, ça me vient à l'esprit, quand vous lisez l'Épître aux Romains, il y a une partie, grand développement doctrinal, et après Paul va faire une partie qui est pratique, qui est basée sur la doctrine qu'il vient de développer. Vous regardez l'Épître aux Galates, la même chose, il y a une grosse partie de développement d'abord doctrinal, et sur cette partie va s'appuyer la pratique. Vous regardez un Pierre, Pierre aussi fait la même chose, il va faire des développements d'abord de l'enseignement, et l'enseignement va induire des conduites, des comportements. Vous voyez, c'est intimement lié. Donc enlevez, démolissez cette pensée de dire la doctrine n'a rien à voir avec la vie. La doctrine est intimement liée à la conduite. Et c'est la doctrine, une bonne doctrine, qui donne une bonne conduite. D'où la nécessité de penser à cela. Donc la sainte doctrine n'est pas quelque chose qu'il faut seulement croire ou connaître, mais c'est quelque chose à vivre. Et la doctrine débouche toujours sur l'obéissance à la vérité. Quand nous appliquons, chers frères et sœurs, à notre vie, la vérité de la parole, l'enseignement, de la bonne doctrine, et nous grandissons ainsi en sainteté. Personne ne peut avancer, je dirais, dans la sanctification. Personne ne peut avancer dans le détachement par rapport au péché et dans la ressemblance à Christ sans la saine doctrine. Impossible. Impossible. Donc, c'est pour cela, dans cette assemblée, dimanche après dimanche, prédication après prédication, mercredi après mercredi, étude après étude, lecture, chacun d'entre nous, personnel, de la Bible, tous les jours, les partages, au jour le jour. Pourquoi? Tout simplement parce que la parole de Dieu agit en nous par son esprit et nous transforme quand nous obéissons à ce qu'elle nous enseigne. Et donc, elle va transformer non seulement nos pensées, nos désirs, nos affections, mais aussi notre vision du monde et notre manière d'agir et, je dirais, de réagir. Donc, chers frères et sœurs, ancrez-vous de plus en plus profondément dans la sainte doctrine pour que vous puissiez vous conformer plus à être semblable à Christ. C'est notre destinée. Ce sur quoi Dieu, pourquoi il nous a sauvés. Et ce qui m'amène maintenant, regardez le dernier point. Nous avons vu ce que signifie la doctrine. Nous sommes au clair. Nous avons vu des arguments manifestant l'enseignement clair. À quoi est-elle doit correspondre une bonne doctrine associée à Jésus-Christ, une bonne doctrine intimement liée aux Écritures. La bonne doctrine a un impact sur la conduite. Pourquoi alors faut-il persévérer? Oui, on a la nécessité de persévérer parce que la première assemblée de l'Église nous a donné le chemin et l'exemple. En Actes chapitre 2, verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 et ils persévéraient dans l'enseignement didaché des apôtres. » C'est notre sujet. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et vous savez, c'est intéressant, le mot persévérer veut dire persister, veut dire demeurer ferme et constant. Et persévérer, c'est ce qui caractérisait les croyants de la première assemblée, comme nous venons de le dire. Ils continuaient avec ténacité dans l'observation de ce que les apôtres enseignaient, parce qu'ils avaient reconnu l'autorité de leur enseignement et ils s'y soumettaient de bon cœur. N'est-ce pas? Il est impossible de persévérer dans l'enseignement des apôtres sans d'abord obéir à cet enseignement. Nous venons déjà de le souligner précédemment. Et Paul le rappelle encore, insiste là-dessus, en Romains 6, 17, quand il s'adresse aux chrétiens à Rome, « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, » ça c'est le premier tome de chacun de notre vie, esclave du péché, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. L'Esprit nous donne dans ce verset une belle illustration dans lequel, ici, c'est un peu une moule dans laquelle le métal on va fondre pour qu'elle prenne la forme de moule. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ça, c'est l'idée de ce qui est écrit ici. Et donc, nos pensées, nos actes, nos conduites vont être transformés par l'obéissance à la doctrine. Et ça va former des convictions solides et qui deviennent visibles dans nos conduites. C'est pour cela que nous insistons sur l'importance d'enseigner les doctrines des apôtres, que nous avons vu, a été qualifiée de doctrine de notre Sauveur, doctrine de Christ, doctrine du Seigneur, n'est-ce pas? Et je veux être encore un peu plus pratique pour vous dire l'importance et l'impact de la doctrine au quotidien, dans le quotidien. Tout simplement, dans le monde séculaire, comment savez-vous quelque chose si on ne vous l'a pas enseigné? Et je dirais, la plupart de nos connaissances ne viennent pas de ce qui a été vécu, il y a une grande partie qui vient des vécus, mais il y a une partie qui vient de ce qui a été enseigné. Et là-dessus, on est d'accord, hein? Par exemple, comment savez-vous que la Terre est ronde? C'est parce qu'on vous l'a enseigné. Comment savez-vous que le rayon ultraviolet existe? Pourtant, ce n'est pas visible avec l'œil nu. On vous l'a enseigné. Beaucoup de choses. Et il en est de même, je dirais, sur l'aspect spirituel. Comment savez-vous que Jésus est le Fils de Dieu? Quand vous entendez de part des musulmans qui disaient « Dieu n'a pas de fils et Jésus n'est qu'un prophète. » Alors, comment êtes-vous sûr que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, l'égal de Dieu? Par la doctrine de la Christologie. C'est la doctrine de Christ. Vous voyez? Comment je peux savoir que je suis sauvé? Comment allez-vous aider quelqu'un pour lui apprendre comment être sauvé? Il faut l'enseigner par la doctrine du salut. C'est ce qu'on appelle dans le vocabulaire théologique la sotériologie. Comment peut-on savoir si Dieu existe? C'est par la doctrine de Dieu, la théologie. Il faut l'enseigner. Comment savez-vous d'où vient le mal et la souffrance? C'est par la doctrine du péché. C'est ce qu'on appelle amartiologie. Amartiologie, pourquoi? Parce que le mot amartia, amartano, c'est un des mots grecs qui signifie le péché, manquer le but. D'où la doctrine du péché, amartiologie. Comment savez-vous que la Bible est la parole de Dieu? Parce que d'autres peuvent vous dire, oh, mais non, 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 regardez, c'est que des hommes qui ont écrit là, tu ne peux pas me dire que c'est la parole de Dieu. Et oui, c'est par l'enseignement de la doctrine de l'inspiration. C'est le souffle de Dieu que nous avons entre nos mains ici. Donc comment je peux le savoir? C'est par la doctrine de l'inspiration. Comment je peux savoir que la Bible est fiable? Il y a beaucoup de gens qui peuvent vous dire à la fac, au travail, vous ne pouvez pas faire confiance. Hein, il peut vous induire en erreur. Et il y a des erreurs là-dedans. Comment pouvez-vous argumenter, être sûr qu'il n'y a pas d'erreur? La Bible n'induit pas en erreur. Par la doctrine de l'inhérence de la Bible. Comment savez-vous qu'il y a quelque chose qui se passe après la mort? Tout simplement par les doctrines des choses de la fin, l'au-delà. C'est l'eschatologie. Et je peux faire une longue liste. Vous êtes convaincus que c'est important? Comme dans le monde séculaire, vous êtes fait non seulement à partir de votre vécu, mais à partir de ce qu'on vous a enseigné. Et il en est de même sur le plan de la doctrine de Christ. Je vous ai mis là quelques doctrines, la liste n'est pas exhaustive, mais pour vous dire, c'est l'importance, combien on a besoin d'être ancré dans ces choses. Et ça nous évite d'être pris et être entraîné dans des fausses doctrines, dans les erreurs, les hérésies, n'est-ce pas? Et donc on a besoin non seulement de les connaître, mais on a besoin de les transmettre. On a besoin de la défendre, n'est-ce pas? J'aime beaucoup cette illustration. comment, parce que là, le problème que dont je me pose, c'est que comment peut-on savoir la bonne doctrine par rapport à la fausse doctrine? C'est ce que je veux dire maintenant, c'est quelque chose de vrai. Il y avait dans un pays un épicier. Dans ce pays-là, il n'y a pas de détecteur de faux billets. Et ce monsieur impressionnait beaucoup ses voisins, parce que lui, pour détecter le faux billet, il va le frotter avec sa main, il va regarder, et il dit « ça c'est du faux ». Un jour, quelqu'un est venu lui dire « mais comment fais-tu pour savoir que c'est faux ?» Il dit « c'est simple, et c'est, ça nous surprend, j'ai passé beaucoup de temps à étudier les bons billets, et je décèle facilement ce qui est faux. J'ai passé beaucoup de temps à étudier les bons. Et je vois tout de suite ce qui est faux. » Il y a une leçon intéressante pour nous là-dessus. Nous n'avons pas besoin d'étudier toutes les fausses doctrines. Mais ancrons-nous dans la bonne. Prenons le temps de l'étudier comme cet épicier. Et quand nous sommes au fait sur ce qu'est la bonne doctrine, ça va sonner tout de suite, on va avoir le discernement. Ça, c'est pas de la Bible. C'est pas de la Bible, ça. Et, chers frères et sœurs, c'est important, cela. Et donc, j'aimerais aussi vous encourager à faire de même avec la bonne doctrine. Quand nous connaissons la bonne doctrine, nous pouvons détecter, comme je viens de dire, ce qui est fausse doctrine et les combattre. Et nous avons les responsabilités de le transmettre. Oui, je dirais que la grâce du Seigneur nous aide pour persévérer avec constance, comme faisait la première Église, avec humilité de cœur, dans la bonne doctrine, basée sur les Écritures, et y persévérer. J'aime beaucoup ce que disait le psalmiste, autrement, quand il disait, psaume 143, 10, « Enseigne-moi à faire ce qui te plaît. » Je dirais, ça c'est une prière que chacun d'entre nous doit faire chaque jour, et impliquer notre cœur là-dedans. Cette prière, enseigne-moi à faire ce qui te plaît, c'est, je dirais, le sommet de la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'il y a existe une vocation plus élevée que de faire ce qui plaît à Dieu? Non. La vocation du chrétien, celle qui est la plus élevée, est de faire ce qui plaît à Dieu. Et comment savoir ce qui plaît à Dieu? C'est dans l'étude de la parole de Dieu, dans l'étude des doctrines de la parole de Dieu et dans la mise en pratique. Parce qu'une vie chrétienne correcte n'est rien d'autre qu'une implication, une application d'une bonne doctrine théologique. Ce n'est pas le sujet ce matin, mais je voudrais terminer par là. Quand on parle de la doctrine, vous allez voir dans la Bible la qualification saine doctrine. Pas sainte doctrine, saine doctrine. Pourquoi? Saine veut dire salubre, veut dire hygiénique. Si vous vous levez le matin, vous prenez du sandwich, du coca et vous faites ça tous les jours. C'est ce que j'ai fait quand j'étais jeune. C'était assuré et c'est ce que je paye maintenant. Ma santé en a pris un coup. Parce que c'était pas hygiénique. C'était bon au goût, mais ce n'était pas bon pour la santé. Cholestérol, diabète, triglycérides et la liste est longue. Parce que mon hygiène d'alimentation n'était pas saine. Et les conséquences, ma santé en pâtisse. Il en est de même, une saine doctrine, quand elle est hygiénique, salubre, alors ça va entraîner une bonne santé spirituelle. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous.